Ceci n'est pas le deuxième enregistrement de l'épisode 35 après qu'Arnaud s'est rendu compte qu'il n'avait pas appuyé sur le bouton enregistrer. Ça va, Arnaud?
Oh oui. Il y a comme une gêne quand même un petit peu. Hein. Je suis vraiment désolé. On en était sérieusement, chers auditeurs, on en a été à quelque chose comme une petite heure déjà, hein, je pense, de discussion.
Vous savez pas ce que vous avez raté, c'était un excellent épisode.
C'était très très bien.
C'était
du coup,
super.
On va passer directement au 36. On va faire ça, hein. Il fallait juste être là. Écoutez, voilà, on n'y peut rien. Non, vraiment désolé pour Saint-Tony. J'essaierai de faire plus attention la prochaine fois.
Pour te faire pardonner, qu'est-ce que t'as regardé cette semaine?
Eh ben, figure-toi, je sais que ça va être nouveau pour toi, cette information, mais figure-toi que j'ai regardé Doctor Who saison 13, puisque j'ai rattrapé mon retard sur cette mirifique série de la BBC. La nouvelle saison, enfin, saison de 2021, du coup, en 6 épisodes, qui s'appelle Flux. Et j'ai beaucoup aimé. Saison 11, j'avais pas trop apprécié, c'était un peu lent, un peu décousu. Saison 12, c'était un peu mieux, mais pas non plus ouf. Et là, j'ai retrouvé vraiment les ingrédients qui font de Doctor Who ce qu'est Doctor Who, quoi. Donc des intrigues absolument abracadabrantesques, des événements qui dépassent complètement tous les personnages et de dimensions cosmiques. Même supracosmique si on veut. Enfin bon, c'est vraiment très bien. Ça finit un peu en eau de boudin. Ça m'a rappelé en ça les épisodes écrits par Steven Moffat et qui était, tu sais, qui commence très bien à construire un monde et puis qui finit un peu toujours par le saccager comme ça. Enfin,
oui, c'est un peu son MO, oui.
Ouais, ouais, c'est son syndrome Microsoft, quoi. Mais c'était bien. Très bonne saison, je recommande. Et tant qu'à rattraper mon retard, je suis toujours sur The Office. La version US. Donc là, avec Adrien, on vient de finir la saison 5. On commence la saison 6 ce soir, je crois. Et écoute, c'est très sympa. J'ai moins d'affection, cela dit, pour les gens de The Office, pour même la série, que Parks and Recs.
Le problème de... Enfin, je sais pas si c'est vraiment un problème, mais la question que pose The Office, c'est que, quelque part, au moment où vous êtes là, saison 4, saison 5, saison 6... ça devient comme une nouvelle série télé, alors que Parks and Rec quelque part reste très compact.
Ouais.
Mais là, t'as une grosse intrigue qui a été résolue et t'as un changement assez massif de distribution et donc ça reste drôle, mais c'est plus tout à fait les mêmes ressorts. Il y a plus exactement la même tension. Ça devient une espèce de machine qui roule, quoi. Alors que Parks and Rec, le fil rouge de l'ambition de Leslie reste là tout le long, donc.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est pas la même dynamique. Mais cela dit, ça reste. Enfin, il y a des gens qui ne refusent d'admettre l'existence des deux dernières saisons de The Office. Je pense que c'est une erreur. Il faut les regarder. Il faut pas les regarder de la même manière que tu regardes les deux premières, mais il faut les regarder parce que ça reste très drôle et ça reste très intéressant à regarder. Si tu t'intéresses à la comédie et notamment à la comédie américaine, ça reste un objet à étudier, quoi.
Oui, je pense qu'il y a un avant et après, hein, clairement.
Ouais, carrément. Ouais.
Et toi, de ton côté, qu'as-tu vu?
Je me mets parce que je me suis abonné à Canal+, je me mets à regarder des trucs en français, ce qui est assez rare venant de moi.
Oui.
Et donc j'ai regardé L'amour flou de Romane Bouranger et Philippe Rebaud. J'ai commencé par le film. Le film retrace leur séparation, mais qui en même temps n'est pas vraiment une séparation parce qu'ils ont décidé de rester dans le même appartement, enfin ou en tout cas de rester, de continuer à habiter ensemble. Et donc, ils habitent chacun dans une aile d'un appartement avec leurs enfants entre les deux. Et ils appellent ça le sépartement.
Ça, c'est une trouvaille, quand même.
ce qui est quand même pas mal. Et le film est... alors, évidemment, c'est une histoire romancée, mais ça reste très, très proche de leur histoire réelle. Et Canal a voulu continuer avec une série télé qui s'écarte beaucoup plus de la réalité. Et je suis moins convaincu. Monica Bellucci, qui ne joue pas Monica Bellucci, mais qui joue un rôle... dans la série télé, je trouve ça moins frappant quelque part que Romane Bouranger qui joue elle-même.
Ouais.
Ça reste très plaisant, ça reste drôle, truculent comme dirait l'autre. mais ça m'a moins touché que le film. Pas du tout français, pas du tout chez Canal. J'ai regardé Ditcher avec Sandra Oh.
La même que dans Killing Eve.
La même que dans Killing Eve, que j'avais commencé à regarder par-dessus l'épaule de Cécile, et puis finalement je me suis assis sur le canapé et j'en ai plus bougé parce que c'était quand même vachement bien.
J'ai pas réussi à finir de mon côté, j'avoue. Il faudrait que je m'y remette, je pense.
Tu n'as aucun goût. c'est tout.
Avoir des goûts de chiottes, ça veut pas dire avoir de aucun goût. C'est pas la même chose.
Et je pense que les gens qui ont lu les romans de David Lodge devraient apprécier Dead Chair. Ça se passe dans un département d'anglais dans une université américaine. Et mais ça dure 6 épisodes et c'est le prototype de la série Netflix. Donc 6 épisodes d'une demi-heure, 3 heures, et ça aurait très bien pu faire un film de 90 minutes. Ça se regarde vachement bien, ça peut se binger en 3 heures. Hein. Pas de souci, mais ça aurait pu être un film. Et de retour sur Canal, il y a la chaîne Canal Plus Documentaire qui a visiblement récupéré les droits du documentaire sur General Magic, que j'ai revu donc, et je me souvenais pas à quel point c'était le complexe d'infériorité de Tony Fadell qui avait été transformé en documentaire. Donc General Magic, qui est cette entreprise fondée par des anciens d'Apple au milieu des années 80, avec cette idée autour des idées de Mark Porat de concevoir un appareil qu'on aurait à l'époque appelé un PDA et qui aujourd'hui nous rappellerait furieusement le smartphone, puisqu'il y a un modem cellulaire et que c'est une espèce de petit ordinateur mobile. Et il faut pas minimiser la contribution de General Magic, même s'ils ont jamais vraiment sorti de produit. Que c'est jamais vraiment allé jusqu'au bout. Il faut pas minimiser leur contribution à l'histoire de l'informatique, mais je crois qu'il faut pas la maximaliser non plus. Or, Tony Fadell, il a vraiment envie de se faire passer pour un Steve Jobs, et donc il a vraiment envie, quelque part, de construire sa légende.
Ouais.
Et là, on le voit dans ce documentaire, hein, on tord complètement la réalité. On prétend, par exemple, que Apple a sorti Newton sans rien dire à personne, et que les gens de chez General Magic étaient complètement surpris. Il y a des années de rumeurs sur le Newton. Il y a John Scully, qui pourtant intervient dans le documentaire, hein, qui écrit littéralement un bouquin en 86-87 sur son idée du PDA et l'idée qui va devenir le Newton. Et puis, accessoirement, l'idée qui a présidé à la constitution de General Magic au sein d'Apple. Donc, c'est quand même... faut quand même être sacrément schizophrène pour à la fois dire « On a fait General Magic avec la bénédiction d'Apple ». Et on n'a jamais été au courant du projet de Newton. Il n'y a pas un mot sur Palm, et surtout, il n'y a pas un mot sur Andy Rubin, sauf à la fin. Au fait, Andy Rubin, Monsieur Android, il était là aussi.
Il a eu de la lumière, il est rentré.
Et même le produit sur lequel a bossé Andy Rubin, il n'y a eu que deux appareils avec le système de General Magic, un appareil chez Sony et un appareil chez Motorola. Et donc, Rubin bossait sur l'appareil de Motorola, et cet appareil n'est pas mentionné dans le documentaire. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ça montre à quel point c'est vraiment Tony Fadell qui est la force motrice derrière ce documentaire.
Ouais.
Et je trouve ça assez dommage parce que Rubin, quand il part de General Magic, donc Fadell, lui, s'intéresse à la musique et part commencer la série de start-up qui va finir par aboutir à son embauche chez Apple et la création du projet iPod, et en tout cas son incorporation dans ce qui était le projet iPod. Alors que lui, Rubin, il continue à tracer le sillon de la téléphonie, et notamment il fonde cette start-up qui s'appelle Danger et qui va nous donner Android en ligne directe. Alors je sais que c'est devenu persona non grata après ces affaires. Ce type est un peu louche. mais sur le plan historique, je trouve que c'est quand même intéressant. C'est quand même important de mentionner sa contribution. Mais évidemment, ce documentaire, il est fait à la main de Fadell.
Ouais.
Écoutez, Arnaud.
Oui, écoutez-moi. Non, en fait, on vous a bien eu, c'est écouter l'infinitif. Écoute, qu'est-ce que j'ai écouté le dernier de The Weeknd, Dawn FM.
Michael Jackson, donc.
Michael Jackson, tout à fait. Un certain fétichisme sur Michael Jackson, je crois quand même. Est-ce que c'est pas un peu too much, peut-être. Non, c'est. C'est très bien, hein, c'est très bien. Je veux dire, on peut pas dire le contraire. Donc c'est de la très bonne pop. The Weeknd est un artiste accompli, un excellent producteur, un excellent visionnaire, un excellent compositeur, un excellent chanteur. Il trouve un concept dans l'album qu'il file de A à Z, tout en s'appropriant des influences et en réussissant à les transcender. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je veux dire, surtout dans la musique des années 70 ou 80, où il y a beaucoup aujourd'hui de musique comme ça, qui sont moins bien que l'original. Lui, il réussit à faire mieux que l'original.
Quelque part, c'est ça. Il est plus jacksonesque que Jackson lui-même.
Exact, ouais. Ouais, 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 il y a une vraie réussite là-dessus. Il a réussi à s'approprier l'esprit, le concept Michael Jackson.
Et quelque part, ça va plus loin qu'au premier enregistrement, j'y ai pas pensé, mais l'avantage de faire un deuxième enregistrement, c'est qu'on peut avoir de nouvelles idées. Il va plus loin que Bruno Mars.
Merci Arnaud, c'était brillant. Pardon, vas-y, change.
Quelque part, il va plus loin que Bruno Mars, qui avait récupéré des chansons de Jackson,
ouais.
Et où il y avait une...
Un mimétisme un peu.
Un mimétisme, et puis mais aussi quelque part, enfin, il a récupéré un matériel qui avait été créé pour Jackson, donc tu peux pas faire plus jacksonesque ou jacksonien. Mais où c'est quelque part, c'est pas aller plus loin. Il a tracé un sillon. Il a tracé sa propre route par ailleurs. Mais mon père était un fan absolu de Michael Jackson, donc j'ai passé mon enfance à écouter du Jackson en vinyle et je trouve plaisant d'écouter The Weeknd parce que j'ai pas l'impression d'écouter un cover band de Michael Jackson.
Ouais.
Mais je peux tout à fait imaginer que si Jackson serait encore vivant, il enregistrerait ce genre d'album.
Ouais, c'est ça. C'est un bon résumé, je pense. Ça, il arrive vraiment à faire la somme des influences, quoi. Et c'est très intelligent. C'est vraiment très intelligent ce qu'il fait. Et pareil sur le son 70s, 80s, qui, enfin, beaucoup de gens font ça aujourd'hui et c'est pas évident de faire quelque chose de différent avec ça. Et il arrive très bien à le faire. Il file ce concept depuis déjà un album. Il avait déjà fait auparavant. Voilà que j'ai oublié le nom de l'album. Je sais plus comment il s'appelle, mais le précédent. Mais en tout cas, c'était déjà ce son un petit peu. Et là, c'est encore peaufiné, c'est encore altéré. Il chante différemment. Enfin, il va toujours plus loin. Et ouais, c'est un excellent artiste, quoi. Très bonne pop. Également dans les écoutes récentes, le dernier single de Muse, Won't Stand Down,
que je n'écouterai pas, donc contrairement à The Weeknd.
Oui, enfin bon, ça va, hein. Espèce de snob. Non, Muse. Moi j'ai pas peur d'aimer de la bouse, ok, j'ai pas peur. Très sincèrement, entre vous et moi, chers auditeurs, parce que vous êtes plusieurs, le Muse c'est mon adolescence, hein, c'est sortir de l'école privée catholique hors contrat avec quelque chose d'un peu rebelle, une explosion rock, mais en même temps une rébellion quand même assez soft parce que c'est symphonique, c'est très, hein, c'est très romantique au final. Et donc ça gardera quand même. Enfin, les premiers albums sont quand même plutôt bien. Les premiers albums de Muse s'écoutent très bien. Et pour ça, j'ai toujours une petite place dans mon cœur pour Muse, quoi. Donc j'ai évidemment écouté, j'écouterai évidemment l'album qui suivra parce que je suis une victime, mais c'est objectivement pas très intéressant.
Est-ce que tu iras au Stade de France ?
Alors, figure-toi que j'y suis allé une seule fois pour voir justement Muse, et c'est la fois qui m'a fait dire « je n'irai plus jamais au Stade de France ». Ce n'est même pas la peine, même si on me paye, je crois que j'irai pas. C'est catastrophe pour un concert, cet endroit. Enfin, c'est pas possible. La seule chose que tu vois, c'est une demi-phalange qui se balade sur la scène parce que t'es à 300 mètres de distance, donc tu vois rien du tout. Même voir les écrans, tu vois pas grand-chose. T'entends le son en décalé tellement t'es loin.
Ouais.
Non, c'est complètement naze. Et puis, tu mets une heure à rentrer, une heure à sortir. Enfin, y a rien qui va, quoi. Y a rien qui va. Donc, je dis non au Stade de France. Mylène Farmer fait sa tournée d'adieu là au Stade de France. C'est un peu triste dans les stades. Je pense que je n'irai pas non plus. Dernier single que j'ai écouté, qui a fait un peu les gorges chaudes de l'actualité, n'est-ce pas, c'est L'Enfer de Stromae. L'Enfer étant peut-être ce que tu ressens en écoutant l'album de Muse, mais...
C'est encore mieux la deuxième fois.
N'est-ce pas, hein ? Il y a des blagues comme ça qui ressortent. Tu vois, c'est le talent d'acteur, ça, Anthony. Je peux pas expliquer ça différemment. Je peux pas. Bon, mais... toi qui es journaleux, justement, qu'est-ce que tu penses Est-ce que c'est péjoratif de dire journaleux?
Ah, c'est pire que péjoratif, mais je te l'admets.
C'était pas du tout le but d'être péjoratif. Je pensais que c'était un peu cool, mais non, pas du tout.
Non, c'est pas... Enfin, je me considère moi-même comme un journaleux, donc tu as le droit.
Ok, bon.
Donc, toi qui es journaleux, tu disais...
Toi qui es journaleux. Qu'est-ce que tu penses de Stromae au JT?
Ce que je trouve assez fascinant avec cette affaire, c'est que je n'ai pas écouté une seule seconde de ce morceau. Mais alors même que j'ai une veille qui est très orientée vers les États-Unis et que je manque des pans entiers de la culture pop francophone, ça m'est venu aux oreilles. Ça montre à quel point c'était presque un psychodrame dans la bulle journalistique. Mais en même temps, je trouve intéressant que ça se soit passé chez TF1. Parce que souvent dans les films français, quand tu veux mettre en scène un journaliste, c'est le présentateur ou la présentatrice du JT de TF1. Le JT de TF1, c'est un... TF1 dans son ensemble, c'est quelque chose qui est à la frontière entre le journalisme et la communication, et enfin c'est l'infotainment quoi, clairement. Enfin ça, c'est un objet un peu compliqué journalistiquement TF1. Et je trouve intéressant qu'il y ait cette espèce de discours méta sur TF1 où le le journal de TF1 est capable de se mettre lui-même en scène. C'est à ce point que c'est un objet culturel et que c'est un objet de divertissement plus que de journalisme, qu'il assume quelque part d'être un objet de pur divertissement, mais ce faisant fait du journalisme, parce que je crois que parler aux jeunes du suicide de manière très descendante, un journaliste qui fait un énième reportage sur des chiffres en allant voir une association et une adolescente avec des entailles sur les bras, ça ne marche plus. Ou en tout cas, ça n'a plus l'écho que ça pouvait avoir la première fois. Et quelque part, mettre en scène l'entrée de Stromae et l'entrée du divertissement, puisqu'ensuite il chante, pour parler de ce sujet qui est compliqué, pour parler du suicide, quoi. Bah finalement, journalistiquement, ça se défend. Je suis le premier à critiquer la confusion du journalisme et de la communication, mais là, je crois qu'il y a un vrai beau débat à avoir sur le journalisme. Et que je crois pas qu'on puisse rejeter ça en bloc en disant non, c'est TF1, donc c'est forcément de la merde. Je crois que c'est son propre objet journalistique et que c'est moins caricatural que ça peut sembler l'être. Que c'est plus fin, ça reste un coup de com', ça reste Stromae qui est un objet médiatique plus encore qu'un chanteur ou qu'un musicien, mais. Journalistiquement, il y a un truc.
Alors, de mon côté, j'ai écouté le morceau quand même pour me faire une idée musicalement.
Ce qui prouve que tu es un meilleur humain que moi. Hein.
Ou que j'ai juste pas de goût, peut-être, je sais pas. Mais du coup, ouais, c'est de la très bonne production. Enfin, c'est bien. Enfin, c'est Stromae, quoi. Pareil, au même niveau que The Weeknd, franchement, il y a un génie dans l'image et dans le traitement du son. Curieusement, qui fait penser à son ami d'ailleurs Aurel San,
oui.
qui est
Mais oui.
pareil très très habitué aux coups publicitaires médiatiques.
Oui, objet médiatique, enfin
Ouais.
son kebab qui a été dans la presse il y a 3 semaines, enfin
C'est ça. Enfin,
c'est formidable quoi.
Ouais.
Formidable.
Très. Oh.
Oh.
Oh. On enchaîne. On mettra des applaudissements en post-production, d'accord? Et. écoute, musicalement c'est bien. Les paroles sont très très simples et très directes, au point que je me suis demandé si ça manquait pas un peu de poésie. Mais je crois que c'est le validiste chez moi qui s'exprime, parce que t'as vu, c'était comment je parle comme quelqu'un de gauche. T'as vu, je fais des efforts. Hein.
Tu fais des efforts.
Attends, j'aimerais que tu sois plus de droit de ton côté des fois. En gros, il y a enfin, pour l'instant, et j'espère jamais, évidemment, j'ai pas eu encore de pensée suicidaire ou ce genre de choses. Donc, je suis peut-être moins concerné au premier chef par ça. Et je pense que les personnes, par contre, qui ont expérimenté ça, seront plus sensibles au fait que c'est exprimé justement très clairement et très directement.
Mais c'est aussi pour ça que quelque part, c'était important que TF1 se mette en
Exact.
scène, parce que tu
Ouais.
touches la ménagère de moins de 50 ans qui y pense pas forcément, ou pense pas forcément d'ailleurs à ses enfants.
Ouais, exact, exact.
Je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière journalistiquement de sensibiliser à la question, mais ça a le mérite d'avoir mis le débat sur la place publique pendant plusieurs jours. Moi, de mon côté, je ronge mon frein parce que la plupart des nouveautés de jazz sont programmées pour la fin janvier. Donc, en attendant, j'ai décidé de me remettre mes oreilles à zéro en écoutant Sviatoslav Richter jouer du Bach. C'est Alan Jacobs qui en parlait ces dernières semaines. Et comme lui, j'avais déjà écouté Richter, j'avais notamment écouté un album où la prise de son était assez lointaine. T'avais l'impression d'être dans un auditorium, quoi, et donc d'être très loin du piano, t'entendais la salle. Et c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. J'aime beaucoup au piano entendre les doigts du pianiste. Et la guitare, c'est pareil, j'aime beaucoup les enregistrements où tu entends les cordes. Et là, dans cet album-là, il est. le micro est beaucoup plus près du piano, et donc on a l'impression d'être presque assis à côté de Richter, et qui joue Bach, alors moins... quelque part avec moins de mécanique que Glenn Gould, qui est presque trop mécanique, mais je trouve que ça convient vachement bien à Bach, ce côté très détaché du doigté de Glenn Gould. Là, c'est un peu plus... j'ai pas envie de dire sentimental, mais c'est un peu plus chaud, et je crois qu'un peu de froideur, ça convient à Bach. Mais j'aime bien, de temps en temps, revenir à Bach pour me remettre les oreilles à zéro. Enfin, on peut pas se tromper avec Bach, même quand on n'aime pas le classique. En attendant que le jazz revienne, je me fais du classique.
Un truc qui me distrayait beaucoup pendant que j'écoutais Glenn Gould, c'était le fait qu'il chante les notes lui-même. À la fois, c'est très proche, mais ça me fait un peu cringy, j'aime pas trop ça.
En piano jazz, tu as Keith Jarrett, qui est connu pour ça aussi, où en concert, ça te sort presque du concert, parce que tu l'entends autant lui marmonner que son piano. Mais où je trouve ça... Enfin, moi, qui joue piètrement de la guitare, je trouve ça fascinant, parce que... parfois, je suis surpris par ce que je joue. Tiens, c'est pas forcément la note que j'attendais. Ce qui prouve que je maîtrise très mal mon instrument. Et là, non, ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement leur instrument. Ils ont l'idée avant d'appuyer sur la note. C'est fantastique. Il y a des gens qui savent jouer.
C'est vrai. On peut pas dire le contraire. Parce que nous, on sait pas que tout le monde ne sait pas, effectivement.
Oui, c'est ça. C'est là qu'on voit, oui, qu'on est finalement de piètres musiciens. Lire.
Ah, Anthony, lire peu, hein? Lire peu, surtout, c'est mon motto. Non, en fait, bon, je voulais lire plus, évidemment. Le problème, c'est que j'ai dit au dernier épisode que j'étais en train de lire les mémoires d'Adrien. Résultat, j'ai absolument rien lu de plus. Enfin, j'ai pas du tout avancé dans le bouquin aujourd'hui.
Alors que nous avons plusieurs auditeurs qui nous ont contactés depuis le dernier épisode pour nous dire que sur tes chaudes recommandations, ils avaient acheté les nouvelles d'Adrien.
Écoutez, c'est bien de soutenir Madame Yourcenar, c'est important, je pense.
Qui
en a fort besoin. Mais et je suis très flatté, mais je pense que c'est un très beau coin, et je pense que vous n'allez pas regretter. Alors, ce qui est quand même fou, parce que je sais que c'est un non-principe et que tu ne crois pas aux coïncidences, Anthony, je sais que tu es quelqu'un de science, tu n'es pas quelqu'un de foi, mais j'ai quand même... depuis que j'en ai parlé, tout le monde m'en parle de ce bouquin. J'ai deux collègues encore hier et aujourd'hui qui m'ont parlé, qui m'ont dit qu'ils étaient en train de le lire, enfin, c'est absurde. Je crois que c'est le bouquin de 2022. Voilà, j'ai créé une tendance. Le Pantone, c'est Very Perry, et le bouquin, c'est Mémoire d'Adrien. Voilà. Et donc, ça me réapprendra pour la peine. Je vais encore l'oublier, mais ça me réapprendra qu'il faut jamais parler des choses qu'on est en train de faire, parce que sinon, ça tue ce qu'on est en train de faire ou ça le reporte au calendrier grec. Voilà.
Contrairement à toi, moi, j'ai réussi à finir un livre. qui est donc L'infini dans un roseau, qui est... je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais plutôt vous inviter à aller sur Metro Zen Dodo pour lire ma critique. Je trouve assez intéressant que ce soit Les Belles Lettres qui l'ait édité, un éditeur érudit, et où finalement, c'est pas du tout un bouquin d'histoire sur l'invention des livres dans l'Antiquité, c'est une espèce de grand roman... qui mêle la vie d'Irene Baejo et son amour des livres et un peu d'histoire, mais ça se lit formidablement bien si on ne s'attend pas à ce qu'on s'attend. et je crois que le fait qu'il y ait marqué Les Belles Lettres, on s'attend à autre chose, et c'est dommage parce que je crois qu'à la fin c'est mieux que ça. En tout cas j'ai pris un grand plaisir à lire ce bouquin, et j'ai enchaîné avec The Vanishing Half de Britt Bennett, qui est un bouquin qui a eu son petit succès l'an dernier, et par petit succès je veux dire que il a fini au sommet de toutes les listes de tout le monde, qui est l'histoire de deux sœurs afro-américaines qui vivent dans une communauté où les noirs essayent de se laver quelque part, et donc où il y a une prime à la clarté de peau, donc ce sont des noirs qui sont fiers d'être clairs de peau. Et donc il y a une des deux sœurs qui décide d'aller vivre et de se faire passer pour blanche, et l'autre qui au contraire décide d'aller épouser un homme qui est à la peau plus sombre qu'elle. C'était traduit en français par Karine Lalcher sous le titre L'autre moitié de soi, et ce que je trouve assez fantastique dans ce bouquin, c'est que ça me rappelle le pouvoir de la fiction. Après la fac, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à lire après 5 années à tant lire et à lire tant de bouquins pas ennuyeux mais durs.
Ouais. aride, quoi.
Aride, c'est ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à lire, et encore plus de mal à me remettre à lire de la fiction.
Ouais.
Et là, j'essaye vraiment depuis quelques années à me remettre à lire de la fiction, et ce bouquin, c'est le genre de bouquin, oui, qui te montre ce que tu peux faire avec les mots, quoi. C'est épuisant, c'est fatigant à lire. J'en suis à 250 pages, je lis 50 pages par 50 pages, parce que ça... Émotionnellement, ça me draine, quoi. Mais les gens qui... Enfin, toi, Cécile, les gens qui nous écoutent commencent à me connaître et savent que je peux être un peu critique, un peu chiant.
Pourtant, ça le fait mise un petit peu aussi, des fois.
Vaguement. Quand je suis devant un livre et que Cécile m'entend avoir un petit rictus dans la gorge, elle sursaute. C'est « Ah !»
Mais qu'est-ce donc ?
Il se passe un truc.
Positif, un truc positif.
Et avec ce bouquin-là, c'est ça toutes les trois pages, quoi. Le nombre de phrases que j'ai soulignées en me disant mais bordel, c'est bien écrit.
Ouais.
Parfois, c'est même pas dans une tournure de phrase, quoi. C'est dans le choix d'un mot. Et tu te dis ah. Ah oui, on peut faire ça, en fait. On a le droit de faire ça. On tape pas sur son clavier juste pour écrire des articles sur l'informatique. On peut s'amuser.
Est-ce que ça te rappelle pas un peu la même chose pour la musique? Tu vois? Genre, c'est quand même, on a, en tout cas, moi, je sais que pour, dès qu'il s'agit de composer quelque chose, c'est souvent assez, enfin, je suis déjà limité par mes moyens physiques. Donc, j'ai pas une agilité extraordinaire. Donc, souvent, ça dicte un peu ma manière de composer. Et le fait d'écouter d'autres morceaux, ça, enfin, parfois me surprend. Je me dis, ah oui, c'est vrai, ce demi-ton-là, bah ouais, ça marche en fait.
Je l'ai souvent. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le jazz, et où parfois il y a des sorties de gamme. La musique atonale, c'est très difficile, et où c'est très facile en fait de faire de la musique atonale qui sonne comme quelqu'un qui tape sur une boîte de conserve.
Mmh, c'est parce que c'est ça justement.
Non mais vraiment, je pense que oui. Je pense que dans 99,6% des cas, c'est le cas. Et il y a parfois des sorties de gamme, des emmêlements d'harmonie où tu te dis, ah, en fait, oui. Ah oui, tu fais un truc là. Et toi, t'es là avec ta guitare ou ta basse et tu fais, mais non, où est-ce qu'il est allé chercher cette note? Comme,
je
comment,
crois que
où? De quoi? Ah.
Quoi. J'ai eu le même genre d'épiphanie, je crois que c'était au restaurant, figure-toi. Parce que pareil, culinairement, tu peux avoir ces espèces d'inattendus dans l'assiette.
Mais je pense que ce sont des expériences super importantes et qu'il faut vraiment être dans le moment. Enfin, pas être tout de suite dans l'analyse. Il faut d'abord être dans le moment, savourer, il s'est passé un truc. Et je crois que la différence entre les créateurs et les autres, c'est que les créateurs, ce sont des gens qui sont ensuite capables de passer à l'analyse et de se dire pourquoi il s'est passé ceci. Et de prendre des notes et de le transférer à ce qu'on crée. Je suis pas... je sais cuisiner, mais je suis pas cuisinier, quoi. Je sais faire de la musique, mais je suis pas musicien. Je suis auteur. Mais je suis capable de prendre un moment culinaire ou un moment musical et de le transférer dans mon art. Et on le voit, ceux qui m'écoutent le voient pas, mais je mets... tout un tas de guillemets autour de mon art. Et être capable de se dire, non seulement il s'est passé un truc, mais voilà pourquoi ça s'est passé, j'attendais pas ceci, j'attendais pas cela, il y a telle combinaison. Et comment est-ce que... j'ai eu le cas, quand on parle de gustativement, avec du chocolat cette semaine, hein, un chocolat noir qui enrobait un cœur de cassis, et au cœur du cassis, il y a du piment d'Espelette.
Hein?
Ça marchait pas mal. Et tu te dis, comment est-ce que je peux faire ça en écrivant? Comment est-ce que dans une nouvelle que je tape à 4h du matin parce que j'arrive pas à dormir, je peux t'enrober un cœur de cassis dans du chocolat noir et te mettre un grand coup de piment d'Espelette dans la nuque et t'emmener ailleurs, quoi?
Là, je crois que ailleurs c'est dans la mort, c'est ça, du coup, parce que dans la nuque ça pardonne pas trop, je crois.
Ou alors dans les tripes, on va dire.
Bon.
Et vraiment, quoi, comment est-ce que... Et tu peux le faire avec tout un tas de choses et tout un tas de domaines. Et en tant que spectateur, c'est incroyablement jouissif parce que oui, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est sorti de l'ordinaire. C'est proprement extraordinaire. Mais en tant que créateur, quand t'es capable de récupérer ça, de reprendre ça comme une éponge, quoi, et de le ressortir transformé et de toi-même manier ces outils-là. c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, quoi. C'est
ouais.
Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je me lève le matin, quoi.
Oui, oui, c'est ça illumine vraiment le quotidien, quoi. Enfin, très littéralement. C'est cette fameuse dent in the universe
ouais.
de Jobs. Ouais,
ouais,
je suis d'accord.
Complètement. Mm. Ouais. Parlons de choses fort plus prosaïques maintenant. Acheter.
Acheter, c'est ma passion, Tony. J'adore acheter. J'adore dépenser l'argent. Je crois que le problème, c'est que l'argent se dépense. Mais j'adore l'acte d'achat.
Je suis très d'accord avec ça.
C'est un vrai souci. Il faut qu'on en parle un moment. Bon, mais bah, récemment, donc j'avais un chargeur Ikea dont j'ai oublié le nom parce que bon, bah, on va pas non plus déconner, qui valait 5 balles, qui était sur ma table de chevet, qui servait à charger mon iPhone parce que oui, chers auditeurs, je dors avec mon téléphone. Voilà, je suis pas parfait. Non, arrêtez d'avoir cette image de moi. Je suis comme ça. Et en fait, ce chargeur était quelque peu dysfonctionnel. Enfin, il me déplaisait parce que tu poses le téléphone dessus, ça commence à charger, puis après ça clignote, ça marche plus, nanana. Bon, un peu... voilà, tu sais pas pourquoi, des fois ça marche pas, des fois ça marche. Bon, voilà.
Quelque peu dysfonctionnel. C'est... Je me demande si ça pourrait pas être le slogan d'IKEA.
J'ajouterais un sous-titre qui serait « Toujours plus cher que prévu ». Est-ce que c'est pas la réalité quand même?
Si, 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 si.
C'est littéralement ça.
C'est pas mal.
Ah, Ikea, seigneur.
Tu vois, dent in the universe.
Oui, exact. et donc, j'ai acquéri, oui, acquéri, un chargeur Belkin magnétique. Donc, c'est pas typiquement MagSafe.
C'est MagFake.
C'est MagFake, c'est ça. Mais bon, ça marche très bien quand même. Mais c'est vrai que la pression est très forte. Hein,
ouais,
on sent
ouais.
que MagSafe est quand même plus subtil que ça. Mais bon, ça fonctionne, écoute. C'est juste le seul inconvénient, c'est que ça fait une lumière. Il y a une LED dessus qui éblouit à 100 km alors que je suis en train de dormir, quoi. Donc je suis obligé de le tourner dans une position. Je vais mettre un scotch, je sais pas quoi.
Toujours sur tous les chargeurs. Je me demande si c'est pas d'ailleurs une obligation de la spécification de Qi.
Ah.
Et ça m'a fait acheter un rouleau de Chatterton. Où j'ai maintenant un rouleau de Chatterton juste pour mettre sur les diodes de tous ces gadgets qui s'illuminent dans la chambre à coucher.
Excellente idée, bah je vais faire ça. Ok. Et sinon, pour le boulot, j'ai payé 2 abonnements. Le premier à un logiciel que tu connais peut-être qui s'appelle Antidote.
Je connais vaguement Antidote.
Vaguement. Est-ce que au premier enregistrement, tu m'as dit que tu étais en train d'interviewer quelqu'un de chez Antidote, mais je ne sais pas si je le répétais.
Le patron, tout simplement, oui, oui.
Ah oui. Ah oui, bon, ça va, alors c'est pas très connu. On le salue, bien entendu. Donc, un abonnement à ça pour le travail. Parce que je dois relire beaucoup d'articles écrits par des freelances. Et pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas encore creusé très profond. Je trouve ça un peu complexe. Un tout petit peu. Mais il faut que je plonge dedans, c'est surtout c'est ma faute. En fait, je me demande encore... là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée par rapport à un autre correcteur orthographique. Donc, il faut que je plonge dans... Enfin...
Je pense que l'erreur, c'est de considérer Antidote comme un simple correcteur. J'utilise Antidote, évidemment, pour corriger mes textes, et je ne suis pas parfait. Il m'arrive de faire des fautes d'orthographe. C'est rare, mais ça arrive, promis. mais en fait, je m'en sers surtout comme dictionnaire. Sur mon iPhone et sur mon écran d'accueil. Hein. C'est la première icône sur mon écran d'accueil.
Ah ouais.
Et je me sers d'Antidote comme dictionnaire, mais 25 fois par jour. Et où parfois, tu écris et tu te dis « Non, mais là, ce serait bien d'utiliser un autre mot.
Mm. »
Enfin, au premier enregistrement, tu m'as arrêté sur mon acception du mot « intéressant ». Je t'ai embêté avec « tu vois ». et parfois, il faut lancer le dictionnaire de synonymes. Ou parfois, t'as le mot en anglais, tu l'as pas en français.
Ouais, ouais.
Et sans même parler de mon refus d'utiliser Google Translate, la transcription directe, la traduction directe n'est pas forcément la bonne. Parfois, il faut justement les fouiller dans les synonymes, et Antidote le fait très bien. Ou parfois, tu as le mot, et en fait, tu veux dire le contraire. Et donc là, avoir le dictionnaire des antonymes, c'est quand même fort pratique. Mmh. Ou parfois, tu as envie d'éviter un cliché journalistique. Donc tu vas dans le dictionnaire des co-occurrences, tu vois à quel point le mot que tu as choisi, il est souvent utilisé dans les mêmes expressions. Et donc t'évites de réutiliser la même expression. Ou au contraire, il y a une expression que t'as mélangée, t'en as mélangé deux, et tu te rends compte que t'en as mélangé parce que tu vas dans les co-occurrences.
Du coup, Druide, si vous avez des thunes à dépenser, vous savez qui sponsoriser cette année, je pense. Hein.
C'est ça.
Allez.
Ce podcast n'est pas sponsorisé par Druide Informatique.
Pas
mais
encore.
J'aimerais bien.
voilà, petit bisou pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer un mail C'est quoi, c'est bonjour à podcast.
Bonjour @podcast avec 3a.fr.
Voilà, merci à vous.
Et à mettre 5 étoiles à ce podcast dans Apple Podcasts.
Ah oui, tant qu'à faire. Voilà, ça vaut pour ce
tant
vous qui nous écoutez. Et toujours pour le boulot, j'ai souscrit un abonnement à Things. Things, donc gestionnaire de tâches. Et je crois que j'aime pas trop. Non, mais en fait, alors, bon, j'aime le fait que ce soit cher, tu vois. Du coup, j'ai l'impression d'acheter quelque chose de, tu vois, de, bon, ça, c'est bien.
C'est substantiel.
Oui, exact. Tu te sens investi après,
oui.
Enfin,
oui,
que,
oui.
Plus précisément que tu as investi. Mais il y a, les raccourcis ne sont pas évidents, je trouve. C'est pas très snappy, c'est pas très réactif. Je sais pas, je suis pas tout à fait à l'aise avec ça. J'aime la fonction journal, donc qui fait que chronologiquement les tâches effectuées apparaissent comme ça, donc c'est chronologique, tu peux facilement les retrouver. Ça c'est vraiment bien. Mais le reste, la création de nouvelles tâches, l'attribution de tags, tout ça, est quelque peu contraignante, je trouve.
T'as pas de peau parce que t'as choisi deux logiciels qui sont peut-être parmi mes logiciels favoris.
Donc, à Culture Code, si jamais vous entendez
bonjour,
ce podcast...
Bonjour, @podcast avec 3a.
Poursuis, je t'en prie.
Non, mais le gestionnaire de tâches, je pense vraiment que c'est comme l'éditeur de texte.
Ouais.
Ou comme la chaussure. Hein. C'est difficile de trouver chaussure à son pied, et c'est difficile de trouver gestionnaire de tâches à ses tâches,
oh.
Et éditeur de texte à ses textes. Et où... Enfin, je le vois cette année. Hein, j'ai commencé par Things, je suis passé par OmniFocus, par Todo, par Todoist, même par Rappel, puisqu'il a fallu que j'écrive sur cette application affreusement abominable. Et je reviens à Things, je reviens toujours à Things. C'est pas, je crois pas que ce soit gestionnaire de tâches parfait. Je crois que c'est une excellente application, et tu n'es pas d'accord. Mac et iOS, iPadOS, je crois que c'est une application qui est bien faite, qui a de vraies idées sur... d'un point de vue interface utilisateur et qui a une vraie idée, de vraies notions sur qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire de tâches, qu'est-ce que c'est qu'une tâche, comment on présente une liste de tâches, et notamment cette idée de présenter des tâches sur un papier, sur une espèce de feuille de papier virtuelle, exactement comme dans la vie tu aurais ta feuille, ta liste de courses sur ton accrochée à ton chariot de supermarché, pour ne pas dire caddie. Mais oui, je peux comprendre que ça ne te va pas. Enfin, comme les éditeurs de texte, quoi. Parfois, je commence un article dans Ulysses, et puis je passe dans IA, et puis ensuite je vais dans BB Edit, et il y a des gens qui disent Byword, Text Edit, Pages, enfin, Notion. Enfin, on pourrait continuer ouais. Comme ça pendant des heures, quoi. Et je crois objectivement que BB Edit, c'est une des toutes meilleures applications Mac, alors très ancienne, mais superbe. Je crois que IA a fait beaucoup de progrès, qu'elle est beaucoup moins lente qu'à une époque, et que ça commence à devenir un bloc-notes assez intéressant. Ça veut pas dire que c'est forcément les applications qu'on devrait utiliser. Et c'est la même chose avec Things. C'est une super application, c'est mon application de gestion de tâches favorite. Ça veut pas dire que c'est celle que tout le monde doit utiliser.
Mais faites des tâches quand même, les gens.
Ah, faites des tâches, évidemment.
Faites des listes.
Videz-vous le cerveau.
Ah ouais. Ah, oh, c'est tellement bien. Tu sais, chaque début de journée, moi j'ai un petit calepin. Alors, c'est peut-être une des choses préférées qu'il y a sur mon bureau, en fait. C'est un petit calepin sur un support rigide qui consiste dans un bloc de feuilles détachables avec deux trous, tu vois, et tu visses ces deux trous. Et du coup, tu peux remplacer le bloc-notes par d'autres bloc-notes dès qu'ils sont épuisés.
Le principe d'un bloc-notes, donc.
Exact, mais remplaçable. Non, parce que souvent c'est un rodia, tu vois, je sais pas quoi. Enfin, tu tèches le truc après, tu vois. Là, c'est tu gardes le support. Donc il y a une certaine pérennité de la chose qui me plaît un petit peu parce que j'ai l'impression de garder le même objet, tu vois. Et tout ce que je fais enfin tout ce que je vais faire dans la journée, que ce soit pro ou perso, je le liste là-dessus et puis après je raye. Mm. En fait, je crois que je préfère ça à Things, mais le problème c'est que j'ai pas la trace après de ce que j'ai fait, donc.
Mais ça, c'est important. Je passe pour plus productif ou plus intelligent que je ne le suis parce que je prends des notes et parce que je fais des tâches. Si j'ai une idée qui me vient en tête, je la note ou j'en fais une tâche si c'est quelque chose qui est actionnable. Et c'est le secret. Hein. Et du coup, je suis pas, j'ai pas 15% de mon cerveau qui est en permanence en train d'essayer de se souvenir de cette super idée que j'ai eue hier ou 38% de mon cerveau en train d'essayer de se souvenir de ma liste de courses. Je libère tout cet espace parce que c'est noté et c'est mis dans Things. Et ça, c'est vraiment le... Enfin, j'y crois vraiment. Hein, c'est, y a pas 30 secrets de productivité. Oubliez tous les billets de blog. Le super hack pour devenir super intelligent et se souvenir de tout. Et 30 leçons de productivité pour devenir plus productif. Tout ça, au final, c'est prenez des notes et faites des tâches. Et à propos de prendre des notes et faire des tâches, je m'étais mis comme tâche de remplacer mon pono vieillissant, qui est ce baladeur de Neil Young qui, je crois, est né sur Kickstarter. Et qu'on avait testé il y a longtemps et je l'avais récupéré pour mettre ma musique en... Enfin, la musique que j'ai achetée ou que j'ai ripé des CD pour la mettre sur un support physique à l'écart d'Apple Music. Parce que depuis qu'il y a Apple Music, c'est, à mon avis, plus compliqué de gérer une bibliothèque locale. Il y a du matching.
Très
et
compliqué.
C'est...
Ouais.
Donc je préfère tenir la musique que j'ai acquis légalement et les CD que j'ai ripé légalement à l'écart de tout ce merdier. Et j'aime bien l'avoir sur un, voilà, pas forcément sur mon ordinateur, quoi, mais sur un truc que je peux brancher facilement à ma chaîne Wi-Fi ou que je peux embarquer avec moi en vacances. Or, le pono commence à se désintégrer. Et il se trouve que mon collègue et néanmoins ami Nicolas Furneaux, que je salue ici, vendait son vieil iPod classique. Donc je m'en suis porté acquéreur. Ce magnifique petit iPod. Preuve qu'on peut acheter un iPod en 2022.
Mais qu'il est beau.
Et c'est quand même de la nostalgie en barre. Hein. Mais alors, il y a quelques épisodes on parlait de la tangibilité et de peut-être ce qu'on avait perdu avec l'écran tactile et la molette. Alors. Qui est pas une molette avec des clics, celle-ci. Enfin, ce sont des clics simulés, mais voilà. Cliquer pour de vrai sur un bouton, c'est quand même... Y a un truc, quoi. Et c'est bien les écrans tactiles, hein, c'est super. Je reviendrai pas à l'iPod pour tout. Mais pour la musique, quand même, on se rend compte que c'était pas la plus mauvaise des interfaces. Et puis, il paraît que c'est la mode de revenir aux écouteurs filaires, donc je suis sauvagement à la mode avec mes écouteurs blancs et mon iPod.
J'ai appris que c'était un outil très utilisé par les musiciens notamment. Enfin, la qualité du micro sur les écouteurs filaires est bien meilleure puisque le micro est pas au niveau de la mâchoire, de la jonction de la mâchoire précisément, mais au niveau de la poitrine. Et il y a moins d'interférences, on entend mieux le signal et tout. Et je crois que c'était pendant un test de The Verge, je crois, sur les AirPods / Samsung, je sais plus quoi, les trucs, enfin. Galaxy Buds, merci beaucoup. Et du coup, le test, effectivement, c'était manifestement bien meilleur avec le fil que tous les trucs sans fil, quoi. Voilà.
Non, et puis l'idée d'avoir... je sais qu'avec mon iPhone, j'ai accès à toute la musique du monde, mais bizarrement, avoir accès à ma musique dans un appareil me semble plus satisfaisant. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça que je le ressens.
Ouais. Alors... Tu disais tout à l'heure plus haut, là, en parlant de General Magic, qu'il y avait une certaine distorsion de la réalité. Ce terme de réalité, Anthony, je trouve qu'on a, en 2022, un petit problème avec le concept de la réalité. Et je voudrais m'expliquer là-dessus. Alors, évidemment, le terme réalité augmentée va suivre de très près, hein, tu t'en doutes un petit peu quand même, je pense.
Et donc, cher auditeur, chère auditrice, tu trouveras dans la description de ce podcast un lien pour télécharger le bingo officiel du podcast, et tu trouveras le mot réalité augmentée en majuscule au centre de la grille.
En comics en MS, ouais. Je pense pas être totalement déconnant en disant, enfin non plus très, très révolutionnaire, quoi, en disant qu'un des besoins humains, de l'être humain pour avancer en général, pour construire, se développer et tout, enfin, c'est ce contact avec la réalité, c'est cette base stable en gros sur laquelle il peut construire, quoi.
Oui, t'as 4000 ans de philosophie derrière toi pour affirmer ce genre de choses.
Voilà, ça c'est pas trop... Voilà, bon, je prends pas trop de risques non plus. Et depuis presque si longtemps, il y a toute une question qui se pose sur la fiabilité des sens, notamment, donc par là même la connaissance de la réalité, est-ce qu'elle est vraiment objective, est-ce que ceci, cela, bon voilà. Je crois qu'un des problèmes de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, réalité mixte, ce qu'on veut, c'est que systématiquement, la réalité va être... assimilé à un signal qui trompe nos sens. Aujourd'hui, là, dans les MacBook Pro, par exemple, on a le moteur haptique, donc qui simule le clic quand il y a juste un effleurement, une pression du trackpad. Et ce clic n'existe pas. C'est pas un vrai truc.
Non, c'est ton doigt que tu appuies, mais le trackpad en lui-même ne clique pas. Mm. Donc tu as la sensation de cliquer parce qu'il y a le moteur haptique qui donne un toc, mais enfin moi quand j'utilise mon trackpad en ce moment, je utilise un trackpad Force Touch, ça me casse le cerveau, ça me casse encore plus le cerveau quand j'oublie que mon iMac s'éteint automatiquement et donc que j'appuie sur ce trackpad et qu'il ne se passe rien.
Mm. Ah, c'est terrible ça. C'est comme sur les iPhone 6S où quand il n'y avait plus de batterie, t'appuyais sur le bouton d'accueil et quelque chose de contre nature s'est produit.
Et soudainement, c'est dur et ça s'acquitte
pas.
Ah
ouais,
et
c'est pas normal.
Il y a un moment de dissonance cognitive qui est quand même assez... Enfin, ça fait mal au cerveau, quoi.
Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Et bah, alors, il s'en faut peu, je crois, pour qu'on arrive à un relativisme absolu, hein, pour utiliser des mots tout à fait nuancés. Puisque si dans ce cas-là, rien n'est vraiment fiable et que tout se vaut dans l'expérience, la seule différence, justement, c'est cette expérience qui est individuel, donc le prisme individuel de cette expérience reçue. Et étant donné qu'on maîtrise mal, laisse-moi finir, je t'en prie, qu'on maîtrise assez mal les émotions qui nous agitent en général, nous pauvres personnes, un peu comme, pas aussi cringy que Matrix, mais presque, quoi, tu vois, c'est genre, t'as cette instabilité intellectuelle qui permet de... qui redéfinit en fait la réalité elle-même et du coup ouvre la porte en grand, tapis rouge et tout, à une tyrannie quelconque, quelle qu'elle soit, quoi.
Je suis pas certain d'être complètement d'accord avec toi, justement parce qu'on vient de parler du trackpad. C'est-à-dire qu'on peut encore avoir des expériences collectives de la réalité parce que malgré tout, nos sens quelque part sont défaillants de la même manière, si j'osais le dire comme ça. Alors... on est tous un peu cassés, enfin, par exemple je vois que d'un œil, donc j'ai pas la même perception de la profondeur que les gens qui voient de deux yeux, mais à la fin je vois, et il y a des gens qui voient pas, il y a des gens qui voient, mais il y a un spectre de la vision ou de la non-vision, mais à la fin on a grosso modo la vision, l'odorat, l'ouïe, le toucher, enfin la proprioception, et on a à peu près tous la même manière d'être subtilement cassés dans notre perception de la réalité.
Comme dit Saint Paul, hein, nous voyons tout confusément comme dans un miroir, un petit peu.
Oui, et tous confusément différemment, mais confusément. Ce qu'on partage quelque part, c'est la confusion. l'expérience de la confusion.
J'aime beaucoup ça, ouais.
Et du coup, ça nous permet, voilà, on a la même perception du Magic Trackpad et ça nous fait mal d'une manière très similaire à la tête. On ressent tous cette dissonance cognitive. Et je crois que ça existe encore, et le mot-clé c'est encore. Ça ne sera peut-être plus le cas après. Et après quoi ? Après la réalité augmentée. Et je le vois par exemple avec les AirPods, où on est déjà dans la réalité augmentée, avec le mode transparence. Et où je me prends, je l'ai déjà dit, j'ai déjà écrit sur le sujet, à parler à des gens en ayant encore les AirPods Pro sur les oreilles.
Pareil.
Je trouve ça effrayant.
Ouais. Je jamais arrivé auparavant. Ouais.
Je le fais, quoi. Et je m'attrape en train de le faire, quoi. Et je trouve ça effrayant. Et pourtant, je laisse mes AirPods dans mes oreilles. Ce qui prouve quand même que, bon. Et on le voit quelque part aussi sur les réseaux sociaux, où la manière dont les fils sont travaillés par les algorithmes, travaille aussi notre perception de la réalité.
Oui.
Et où, enfin, on le voit, il y a des gens qui n'ont pas d'abord accès aux mêmes faits, parce qu'il y a des classes entières d'actualités qui disparaissent de tes fils et au contraire, des classes entières d'actualités qui apparaissent. J'ai recréé un compte YouTube très récemment, 2-0, pour voir ce qui se passait, et il suffit de cliquer sur deux vidéos pour tomber sur des suggestions sur Raoult et Éric Zemmour.
Et encore deux vidéos, je pense que t'es gentil. Hein.
Enfin, à quel point on te tord le cerveau, quoi. Tu peux être la personne la plus mélanchoniste que tu connais, et en deux clics, paf, cette personne va tomber sur Zemmour, alors qu'elle a rien demandé à personne. Mm. Et on le voit, quoi. Il y a des gens qui ont maintenant des arguments sur des mots. Les mots n'ont pas le même sens. À partir du moment où les mots n'ont pas le même sens, les idées n'ont pas la même réalité, quoi. Enfin, c'est quand même... Et donc, on voit des gens qui, vivant dans le même monde physique, vivent dans des réalités intangibles différentes. Enfin, je le vois cette semaine, j'ai eu le cas avec la question de l'obligation du port du casque, où ça devient difficile d'avoir des positions raisonnables, j'aurais envie de dire. Où je tenais une position qui est, à mon avis, pas très compliquée, qui est de dire attention à l'obligation du port du casque, ça peut être une fausse bonne idée, notamment on voit une forte chute de la pratique dans les pays où il y a une obligation du port du casque, avec des effets sanitaires qui sont pas très évidents parce que l'accidentologie, le casque, en fait, il protège très bien. Enfin, il protège très bien. Le casque peut protéger des accidents qui touchent la tête, mais le problème, c'est qu'il y a une très forte accidentologie en dehors des villes, notamment sur la route départementale, où le casque, finalement, ne sert pas à grand-chose, et où en ville, c'est un peu plus compliqué. Or, les effets de la non-pratique du vélo sur la santé publique, ils sont clairs et nets. Je veux dire, ça fait du bien à la santé de faire du vélo. Donc attention, ça peut être une fausse bonne idée pour la santé publique. Et c'est pas forcément la meilleure solution pour protéger le cycliste. Et où on sait que mieux concevoir l'espace public, mieux partager la route, mettre plus de cyclistes sur les routes, c'est quelque part une protection plus efficace, et une protection plus efficace pour la santé publique. À la fin, avoir des villes moins bruyantes et moins polluées, c'est peut-être mieux que d'obliger le casque. Et donc attention à cette potentielle fausse bonne idée, mais, tout est dans ce mais, ça ne doit pas empêcher aux gens qui veulent porter le casque de porter le casque. Quand je suis sur un vélo électrique ou quand je fais du VTT, je mets un casque. Et pourtant, je suis contre l'obligation. Et tenir cette position qui me semble toute simple, attention aux effets délétères de l'obligation du port du casque, mais porter un casque, je me suis retrouvé avec des gens en face de moi, des gens que je connais depuis 15 ans, qui étaient à deux doigts de l'insulte, quoi, qui me mettaient des mots dans la bouche. Tu fais, mais non. Enfin, et donc on vit dans des réalités subtilement différentes, c'est quand même... Et ça va quand c'est sur un réseau social, quand c'est sur un smartphone. L'application Twitter, tu peux aller désinstaller. Le smartphone, qui est... certes, un mur quelque part entre toi et la réalité, tu peux le mettre dans ta poche. Tu peux lever la tête. Qu'est-ce que c'est le jour où c'est des lunettes? La vidéo de Google Glass, j'avais écrit à l'époque en disant Google Glass, l'informatique, c'est bientôt fini pour moi. La première chose que je fais depuis que j'ai 7 ans le matin, quand j'ouvre les yeux, c'est de mettre mes lunettes. Et la première chose que la personne dans la vidéo de présentation de Google Glass fait, c'est de mettre ses lunettes connectées. Et donc la première chose qu'elle fait le matin, c'est de sauter dans un autre monde. Et elle les retire pas de la journée. Elle a des notifications en permanence toute la journée. Et elle a un filtre entre elle et le monde toute la journée. La première chose que cette personne fait le matin, c'est d'imposer un filtre entre elle et les autres. Et aussi, ce sont des lunettes de vue. Enfin, je peux pas retirer mes lunettes. La phrase apocryphe de Wozniak, quoi, n'ayez jamais confiance dans un ordinateur qu'on ne peut pas acheter par la fenêtre. Je peux pas acheter mes lunettes par la fenêtre. Et donc je m'inquiète beaucoup de ces couches qu'on ajoute à la réalité tangible. Ça peut commencer par les réseaux sociaux, ça peut être les cartes. On ne peut plus se perdre. Enfin, ça devient un acte conscient de se perdre quelque part. Il faut consciemment se dire non, je vais pas regarder la carte. Ça devient difficile dans un débat de dire je sais pas. Tu peux aller vérifier l'information en temps réel.
Mais justement, la question étant quelle information, bien entendu.
C'est ça. Et donc oui, on parle de cette fable du métavers. Enfin, la localisation, bordel, les AirTags. Ou encore cette semaine, j'ai répondu à des questions sur les AirTags. On voit des types louches qui mettent des AirTags dans les sacs à main de femmes pour les suivre. On altère fondamentalement le rapport à l'autre, là, quand même. Et on vient te vendre le métavers, on vient te vendre cette idée de t'être plongé en permanence dans un filtre entre toi et la réalité. On est sur quelque chose où, à mon avis, on change de nature. On n'est plus simplement dans... On ne sera plus là, à mon avis, dans l'expérience collective de la réalité. On sera vraiment dans... De manière très littérale, quoi. Dans tes lunettes, donc presque...
Dans Matrix.
Presque dans ta tête, quoi.
Ouais.
Sur ta tête, en attendant d'être dans ta tête.
Ouais.
Je crois que c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Et je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Enfin, j'ai un avis sur la question, mais en tout cas, c'est je m'en inquiète énormément, quoi. Et je pense que si les gens qui nous écoutent s'en inquiètent pas, ils devraient se mettre à s'en inquiéter.
C'est ce qui me frappe un peu avec ça, c'est que j'avais cherché d'où je tenais cette citation, et c'est Condition de l'homme moderne, pardon. L'homme modem, c'est une autre personne. Donna Arendt. C'est François Bayrou, c'est ça? Je sais plus.
Oui.
C'est lui, ouais, c'est ça. J'ai toujours un doute sur lui et Copé. Je sais pas pourquoi. Je confonds toujours les deux. À cause du François, je pense. Et, elle commence le livre en distinguant deux phénomènes technologiques qui sont l'arrivée de la bombe atomique et le premier satellite dans l'espace. Et Spoutnik. Et, enfin, le lancement de Spoutnik, pas le premier satellite, mais bon, un des premiers, quoi. Et du coup, simultanément, la possibilité pour l'homme de tout détruire et en même temps de chercher la vie ailleurs, une vie ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, ça n'implique même plus la. Enfin, comment dire. On voit que la Terre se détériore et on voit en même temps qu'il y a toujours cette fuite en avant un peu, bon, chez les Musk, chez ce que tu veux. Mm-hmm. Mais la réalité augmentée, ou la réalité virtuelle, c'est ça pour les péons, quoi. C'est ça pour les moldus. C'est que c'est cette espèce de, à la fois destruction et échappatoire en même temps, dans une bulle, tu vois. Ça me fascine aujourd'hui à quel point de voir à quel point il y a des bulles, en fait. Genre, que ce soit des bulles protectrices un peu, ou d'entre-soi comme ça, comme la réalité virtuelle, ou bien les bulles spéculatives des startups, ou bien les bulles sur la NFT, sur les bitcoins. C'est que des bulles, tu vois. Mm-hmm. On peut dire qu'on vit dans un monde très léger, dans un sens. Mais je trouve que c'est un phénomène, tu vois, qui est très récent, qui croît de plus en plus.
Elle est intéressante, juste la position avec Arendt. Et on peut faire la même avec le réchauffement climatique. Je trouve fascinant qu'on se préoccupe d'une alter-réalité au moment où notre réalité devient insoutenable.
Exact.
C'est-à-dire qu'au lieu de régler un vrai problème qui conditionne notre existence même, qui est le problème du réchauffement climatique, on va se foutre dans des lunettes connectées. Et je dis pas que c'est mal, les lunettes connectées. Hein. Il y a un modèle. Je pense qu'il y a un modèle.
Bien sûr.
Quand Jérôme Lanier disait « À qui appartiendra le futur ?» faut se poser cette question. À qui est-ce qu'on veut que le futur de la réalité, puisque ce sera le futur de la réalité, appartienne. Est-ce qu'on veut que ce soit Apple, Google, Facebook et les autres, ou est-ce qu'on veut que ce soit nous? Ça peut être quelque chose de complètement décentralisé, ça peut être quelque chose de très local, ça peut être quelque chose qui vient du contenu, qui vient de nous, quoi, qui vient de la création, ou ça peut être quelque chose où c'est la réalité by Apple contre la réalité by Google. On a le choix, c'est un vrai choix. Mais attention, j'ai peur que si on fasse le choix de la réalité by Apple et la réalité by Google, on perde la bataille du réchauffement climatique. Et donc, en essayant de chasser ce nouvel opium, on perd pied avec la réalité. Et on a un vrai beau débat, on a un vrai bel enjeu civilisationnel en face de nous. Un vrai enjeu à notre hauteur, quoi. C'est-à-dire que c'est un problème qu'on a causé, mais c'est un problème qu'on peut résoudre. J'en suis persuadé. Je refuse d'être pessimiste face au réchauffement climatique. On peut non seulement apprendre à vivre avec les conséquences du réchauffement climatique, qu'il est trop tard pour arrêter. En le faisant, on peut réapprendre des choses de nos relations sociales, on peut réapprendre des choses de nos modèles économiques, on peut réapprendre de notre rapport à la nature, et on peut aller plus loin. On peut faire ça, ou, et à mon avis c'est vraiment un ou, hein, ou on peut faire la réalité augmentée. Et je crois pas que la réalité augmentée ce soit... Enfin, que la réalité augmentée par Apple ou par Google, surtout par Google, soit un outil dans ce combat. Or, je suis quelqu'un d'affreusement logique. Avant de m'assurer qu'on puisse s'amuser, je préfère m'assurer qu'on soit vivant.
C'est un problème, Anthony, quand même. je suis désolé de le dire comme ça. Mais ouais, c'est. Je crois qu'on revient au problème de l'outil, en fait, dans un sens. C'est pareil, un peu une marotte, j'aurais dû le mettre dans la grille de bingo. Mais c'est. Tu parlais des couches, et je pense que c'est mieux que bulle comme terme, parce que, enfin, finalement, c'est aussi beaucoup. Enfin, les bulles n'existent pas sans les couches, quoi. Et quand on parlait de l'iPhone en tant qu'outil millefeuille, un peu, avec beaucoup de couches d'interaction entre eux. Ton doigt, mais aussi le programme qui a été créé, le programme qui supporte ce programme, le système et le matériel derrière, et donc l'inaccessibilité fondamentale en fait de l'appareil. C'est pareil avec ça, c'est que la réalité, devient privatisé.
Devient un produit.
Ça devient un produit, exactement. Et du coup, le sens de la propriété, enfin le principe de propriété, et du coup, avec lui, je pense, le principe de vie privée disparaît totalement.
Ouais.
Ce qui est fondamentalement un problème aussi.
Je ne suis pas le plus grand, étant moins de droite que toi, je ne suis pas forcément le plus grand défenseur de l'idée de la propriété privée, mais j'ai écrit sur Apple comme entité supracapitalistique. Je reste persuadé que le capitalisme est un grand ouroboros et que Apple, en tant que plus grande réussite du capitalisme, porte les germes de la destruction du capitalisme. Et te faire louer un iPhone et demain te faire louer du service et demain te faire louer la réalité elle-même, quelque part, c'est l'aboutissement du capitalisme en forme de dissolution du capitalisme. Et ce sera quand même fantastique. C'est-à-dire qu'on va monétiser jusqu'à ton expérience du monde et ton expérience des autres. Moi, je sais que pour moi, c'est une certaine vision de l'enfer. Pour d'autres, c'est probablement une certaine vision du paradis.
Ouais.
Mais je crois qu'il faut qu'on réussisse à avoir une conversation entre mon point de vue et le point de vue opposé, et que refuser d'avoir cette conversation, c'est permettre à Apple et Google et les autres de le faire toutes seules.
Très clairement.
Et de le faire sans nous. Or, je crois, mais c'est peut-être mon côté idéaliste qui parle, que c'est bien de faire un monde avec des gens, quoi. À la fin.
Et c'est là où je te rejoins, même en tant qu'homme de droite, pour le coup.